France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Du cinéma face à l'oppression ce samedi dans Plan Large avec Jafar Panahi et Johan Grimont-Pré et aussi Jana Ozirna et encore Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Que peut le cinéma face aux diverses oppressions politiques, qu'elles soient dues à des régimes tyranniques ou aux coups tordus de services secrets pour les installer? Deux cinéastes cette semaine apportent chacun à sa manière une réponse à cette question toujours irrésolue. Le premier est iranien, il a été couronné dans tous les grands festivals internationaux pour des films qui exploraient sans phare tous les tabous et interdits de son pays sous férule islamiste, que ce soit la condition des femmes dans le cercle et hors-jeu ou les fractures sociale et la lutte des classes dans Sang et Or. Très logiquement, ces films n'ont jamais été montrés en Iran, en tout cas pas officiellement, puisque nombre de ses compatriotes les ont vus clandestinement, et Jafar Panahi a fini par être interdit totalement d'exercer son métier. En grand cinéaste qu'il est, il en a tiré l'inspiration de 5 films magistraux, de « Ceci n'est pas un film à aucun ours », de son séjour en prison du 11 juillet 2022 au 3 février 2023, séjour pendant lequel a éclaté le mouvement « Femme, vie, liberté », il a tiré la matière de son nouveau film « Un simple accident » où d'anciens prisonniers, croyant reconnaître dans le grincement de sa prothèse leur ancien tortionnaire, débattent, après l'avoir kidnappé, du sort à lui réserver. Comment l'inhumanité du totalitarisme peut contaminer jusqu'à ses victimes? Comment s'en affranchir tout en filmant en arrière-plan une société qui elle-même se libère de ses interdits? Voilà quelques-unes des richesses de ce film remarquable dans sa frontalité et sa finesse, signé d'un cinéaste d'un courage inouï. Nous l'avions brièvement rencontré au Festival de Cannes. Entre-temps, il en a reçu la Palme d'Or. Il est retourné en Iran. Nous l'avons donc rencontré à nouveau. Nous l'entendrons dans un instant. Après lui, le documentariste flamand Johan Grimont-Pré nous racontera comment, dans Soundtrack to a Coup d'État, il a tressé avec un stupéfiant génie du montage l'histoire secrète de la décolonisation africaine et l'usage du jazz par le gouvernement américain comme écran de fumée aux manigances de la CIA sur le continent. La jeune réalisatrice ukrainienne Jana Ozirna nous dira l'importance de maintenir un cinéma de fiction dans un pays en guerre, en témoigne son beau Honeymoon. En fin d'émission, Sandra Onana explorera comment le métissage des sociétés américaines et françaises se reflète plus ou moins sur les écrans. Mais pour l'heure, on se pose autour d'un trou dans le désert, un trou qui en évoque un autre, celui du goût de la cerise d'Abbas Kiarostami, Palme d'Or en 1997.
پا قشنگه رو پیدا کردم
تو واقعا کی هستی؟
بعد اینکه شما رو گرفتم بعد دو هفته دوباره اومدن سراغ من به جرم اجتبا تبانی و تبلیغ علیه نظام منو گرفتن فقط میخوام کمکم کنید ببینم خودشو یا نه
که پاقو را زر آورده اینجا
گلی
یه باز کن دیگه اینا
خب اول باید مطمئن بشیم
تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده
چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسئول باشه؟ کسی حق نداره بهش دست بزنه. تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست.
Bonjour, Jafar Panahi.
Bonjour.
En 1997, lorsque votre maître et ami Abbas Kiarostami était rentré du Festival de Cannes avec sa palme d'or sous le bras pour le goût de la cerise, il avait dû sortir par une porte dérobée de l'aéroport pour échapper, m'a-t-on raconté, aux nervis du régime des Mollahs qui lui voulaient du mal. 28 ans après, on ne peut pas dire que le gouvernement vous a déroulé le tapis rouge, mais enfin, vous avez été accueilli par une foule de collègues, cinéastes, de familles de prisonniers politiques, de gens ordinaires aussi. Qu'est-ce que ça raconte pour vous de la situation politique actuelle du pays, Jafar Panahi ?
ببینید
voyez-vous
اون زمان
à l'époque
خیلی سخت بود هنوز خط قرمز
داشت c'était difficile il y avait beaucoup de lignes rouges
اما از 3 سال پیش
mais depuis 3 ans
بعد از جنبش مهسا
après le mouvement femmes et liberté les choses ont beaucoup changé l'histoire de la république islamique aussi a changé vous savez il y a un avant et un après le mouvement femmes et liberté
خب شما قبلش تو خیابون
avant dans les rues vous ne voyez jamais une femme sans voile alors il y a 20 et quelques années vous imaginez donner la main serrer la main à une femme c'était vraiment compliqué et tandis que maintenant c'est différent ils peuvent plus réagir de la même manière on a vraiment les gens ont passé les lignes rouges ils ont Ça ne veut pas dire que les autorités ont envie de donner cette liberté, pas du tout. Le régime iranien, quand il aura beaucoup de force, il utilise la répression. Mais le peuple, ils ont avancé. Les autorités n'arrivent plus en fait à arrêter le peuple. Donc vraiment, c'est deux temps différents avec deux situations vraiment différentes. Et on ne peut pas comparer les deux situations. C'est-à-dire que Kiarostami, s'il avait eu la palme d'or aujourd'hui, les réactions auraient été différentes. Et personne ne pouvait rien lui faire.
Penser ces deux moments, c'est un peu ce que fait votre film, puisqu'il est à la fois issu de votre expérience de la prison, de l'enfermement, et de ce que vous avez découvert quand vous êtes sorti de prison, puisque le mouvement Femmes, Vie, Liberté s'est déclenché pendant que vous, vous étiez en prison. Est-ce que c'est précisément cette tension qui habite votre film, entre l'enfermement et la découverte d'une nouvelle liberté ?
En fait,
non, j'ai eu une expérience en prison et toutes ces expériences en prison et les expériences des autres prisonniers qui ont fait que ce film existe. En plus, le film ne raconte pas que mon expérience en prison, parce que mon co-détenu me racontait des choses sur des souvenirs d'il y a 20 ans, 30 ans en prison. Donc, dans ce film, on a tout condensé. Donc, pendant toutes ces années de la République islamique, en fait. Donc, tout ça est venu dans le film et c'est un condensé de tout ça. Alors, bon, la situation de prison, aujourd'hui, c'est différent d'il y a 20 ans, et il y a 40 ans. Mais ça ne veut pas dire que les autorités ont voulu que les choses changent aussi en prison. C'est encore c'est parce que les prisonniers ont tenu, ils ont résisté. Tous ces prisonniers et tous ces gens en fait qui étaient activistes des droits des hommes, donc ils ont pu un petit peu changer la situation de la répression. Ça ne veut pas dire que c'est mieux aujourd'hui, mais c'est pas ça la question. Ce sont des demandes des gens qui avancent petit à petit. Et donc, on arrive à des résultats. Et donc, on peut changer la situation petit à petit.
Vos cinq films précédents, c'était des films de l'intériorité, de « Ceci n'est pas un film à aucun ours », et on vous voyait, vous, on ne vous voit pas, dans ce nouveau film. Mais est-ce que vous avez le sentiment que même votre mise en scène a évolué, Jafar Panahi ?
Non, quand on te dit tu ne peux pas faire un film, donc tu penses d'un coup à toi-même, c'est très intériorisé. Qu'est-ce que ça veut dire je ne peux pas faire un film ? C'est ce qui m'est arrivé. J'avais quelque chose en tête et donc, en fait, je sentais tout était sur moi. J'avais l'impression que tous mes films devaient raconter mon histoire. C'est pour ça que je jouais aussi dans tous ces films. Mais une fois que j'ai fait ma peine et donc je n'avais plus de sentence, et donc là, il y avait une influence sur moi. Et du coup, je suis sortie de mes films pour être vraiment derrière la caméra. Et je suis revenue un petit peu à ce que j'étais avant et pour continuer à travailler. Ce sont tous des influences sur votre tête, votre mental. C'est ça qui fait que vous vivez comme ça ou vous travaillez comme ça. Mais ma manière de travailler n'a jamais changé. Parce que cette manière de travailler... C'est-à-dire qu'en Iran, si vous voulez faire un film, il faut aller demander une autorisation. Et donc, mes films à moi n'arrivent pas à avoir d'autorisation. Donc, je ne vais pas m'embêter, en fait, à donner mon scénario pour qu'il puisse faire des commentaires. Ça, il faut réduire, ça, il faut rajouter, etc. Donc, j'ai fait mes 4-5 films avant, d'une manière particulière, underground. Donc, maintenant, je continue à faire ça.
Mais si on se replonge dans vos films d'avant, ces immenses films que sont Le Cercle, Hors-jeu, Sang et Or et autres, on a le sentiment quand même que maintenant vous ne vous demandez plus est-ce que ce film va devoir être montré en Iran en acceptant les règles, que vous pouvez raconter les choses directement, frontalement, et c'est peut-être le plus frontal de tous vos films, Un simple accident.
Quand j'avais fait Le Cercle aussi, j'ai donné un exemple sur la situation quand on a parlé de l'époque de Kiarostami et maintenant. C'est pareil, vous savez, quand j'ai fait Le Cercle, personne n'arrivait à croire que j'ai fait ce film. C'était une histoire, mais comment c'est possible qu'un film soit fait, quoi? Donc, Le Cercle, pour son temps, était quelque chose. Mais c'était beaucoup plus difficile à l'époque de faire ce film-là que ce que j'ai fait là. On avait dépassé toutes les lignes rouges. Hein. Mais on voit qu'à l'époque, ça a initié un mouvement. On a cassé des tabous. Et donc, quand on parle de la situation dans le temps, on remarque que c'était le temps pour que je puisse faire un film de ce genre. Donc, chacun de ces films était pour son temps très direct. Et donc, il y avait beaucoup de paroles autour, même Sang et Or, qui étaient sur aussi la différence de la classe sociale. C'était toute une question à l'époque. Ils disaient, non, on n'a pas de classe, différence de classe. Donc, voyez-vous, chacun de ces films, dans son temps, racontait quelque chose. Ou les films qui doivent aller pour regarder un match de foot dans un stade. Vous voyez, c'était quelque chose, il disait, il faut même pas en parler. Pourquoi tu en fais un film? Et donc, c'est pour ça que chacun de ces films ont été interdits, même quand le temps est passé, ils ne l'ont jamais montré. Donc, si c'était pas si audacieux que ça, je pense qu'ils l'auraient montré. Mais même 20 ans après, ils n'osent pas. Ils n'ont pas le courage de montrer ce film, chacun de ces films. Donc, le film que tu fais, donc, il faut que le film reste dans le temps. Il ne faut pas que ce soit un film juste pour le moment. Le fait que mes films restent vivants pendant plusieurs années, ça veut dire que mes films ne vont jamais mourir. J'aurais dû faire ces films-là pour arriver à celui-ci. Mais à chaque fois, j'ai eu beaucoup de difficultés quand même.
Vous parlez de classe sociale, Jafar Panahi, et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression qu'un des enjeux de votre film, c'est de pouvoir mettre tout le monde dans le même plan, de réunir dans le même cadre tout un peuple uni contre le régime et peut-être uni grâce à la répression du régime, paradoxalement.
Les problèmes économiques, voyez-vous, on a vu dans d'autres films, dans celui-ci aussi, parce que vraiment la situation économique du pays est catastrophique, politique aussi, bien sûr. Les histoires écologiques, en fait, on est tout arrivé vraiment à des situations catastrophiques. Ce sont des nœuds qu'on a du mal à ouvrir, en fait, mais il faudrait qu'on les ouvre. Donc, jusqu'au moment où on ne les ouvre pas, tous ces problèmes vont en fait perdurer. Et à la fin, ce régime, de toute façon, ne peut plus supporter cette situation. Donc, on a dépassé tout ça.
Mais je reviens sur cette question de mettre beaucoup de monde dans un cadre. Ça devient aussi beaucoup de monde dans une camionnette. Il y a un côté presque Marx Brothers dans votre film. À ce moment-là, est-ce que c'était un des enjeux de mise en scène?
Voyez-vous, c'est ça le cinéma social. Parce qu'on ne veut pas en fait condamner un personnage ou l'autre soit vraiment un héros. Donc c'est pour ça qu'il donne l'autorisation à tout le monde pour donner son avis. Même celui que tu penses que c'est un mauvais personnage dans le film. Même lui, on lui donne le droit de raconter son histoire. Et je pense qu'une de mes meilleures scènes, c'est celui où on donne la parole à ce mauvais personnage. S'il n'y avait pas cette scène, je pense que le film n'aurait pas été aussi fort. Il y a deux jours, on était en train de revoir le film. Je regardais ce plan, c'est 13 minutes et quelques quand même. Et je me suis dit, mais j'ai regardé avec beaucoup de détails et je me suis dit combien cet acteur joue bien finalement. Tous ces moments, 13 minutes, avec tant de plans qu'on a pris, les yeux fermés, le silence est à sa place, les réactions sont à leur place, le rire arrive au moment où il faut, les pleurs aussi. Donc tous les mouvements, c'est difficile, hein, il faut vraiment regarder de près. Est-ce qu'on peut trouver un plan de ce style ailleurs pour comparer? Et c'est là où on peut voir l'importance de chaque jeu, de chaque acteur, chaque personnage, leurs idées, leurs paroles. Et là, on fait attention à ce qu'ils disent. Et donc, tout ça ensemble fait qu'un film soit bien fait. On ne peut pas dire juste « Ah, la photo du film est bien ». Donc, pour qu'un film soit bon, il faudrait que tout soit bien fait. Et tous ces détails, vraiment les acteurs, en fait, ils ont vraiment bien joué. C'est important, je trouve.
Et de fait, ce nouveau personnage, vous commencez le film avec lui, dans un plan très classique du cinéma iranien, un couple dans une voiture filmé de face. Et puis, ça vrille, ça va changer par l'arrière du plan, par cette petite fille qui va apparaître et qui va se mettre à chanter, à danser, qui écoute de la musique, de la danse, qui a une langue très bien pendue. Pourquoi est-ce que vous avez commencé comme ça, en donnant l'impression que ça va être son histoire à lui, alors que le film va bifurquer après?
Non, au départ, on voulait mettre des indices, des codes pour que le spectateur arrive à comprendre qui est ce personnage. Ses vêtements, la manière dont il s'habille, la manière dont sa femme s'habille. Donc, le spectateur arrive à comprendre qu'ils font partie de l'idéologie du régime. Et donc, il y a un accident. Et après, on voit qu'il dit c'est Dieu qui a fait que cet accident arrive. Donc là, c'est l'idéologie là, qu'on met en avant. Et puis après, l'enfant, elle dit mais c'est toi qui as fait ça. Pourquoi tu dis que c'est Dieu qui a fait ça? Donc cette question de la nouvelle génération en Iran. Puis après, l'enfant, elle dit, c'était avant, mais chez nous, il n'y a personne, on n'a pas de voisins. Et c'est l'isolement, parce qu'à cause de la sécurité, ce genre de personnage s'isole. Et puis après, petit à petit, quand l'histoire avance, et puis quand il dit « moi, je ne suis pas telle personne », le spectateur arrive à se dire « mais j'ai vu tout ça au début ». On a planté des indices pour le spectateur, des doutes chez le spectateur, mais j'ai vu des indices, peut-être que c'est vraiment lui. Donc, les doutes qui sont chez Vahid, le spectateur aussi aura les mêmes doutes. Et donc, c'est un jeu, c'est une manipulation, finalement. Sinon, toute cette séquence, je peux la couper. Mais c'est l'introduction pour que tu puisses voir des choses pour après comprendre d'autres choses.
Alors ça, c'est ce que vous contrôlez de votre mise en scène. Mais quand on tourne de façon clandestine, comme vous, quand vous répétez aussi le geste du néo-réalisme, on sait que Le voleur de bicyclette est un de vos films préférés, il se passe dans l'arrière du plan des choses que vous ne contrôlez pas. Des gens qui passent, qui réagissent peut-être à ce que vous, vous êtes en train de tourner. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez filmé? Est-ce que vous cherchez aussi ce genre d'accident, Jafar Panahi?
Oui, si des choses se passent d'un coup, c'est bien. Mais à cause de notre sécurité, on faisait attention à notre caméra dans les rues et on essayait de la cacher. En général, elle était dans le van, en fait. Il ne fallait pas qu'on la voie. Tous ces gens que vous voyez, des passants, tout ça, personne ne savait qu'il y avait une caméra, en fait, avec nous. Et donc, il y avait des choses qui se passaient d'une manière naturelle et réaliste. Et donc, moi, je n'ai pas vraiment changé des choses. Alors, si on a vu une passante sans voile, c'était elle qui était comme ça. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de faire comme ça. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de rester là sans voile. À part une fois, on était en train de travailler dans le van et puis il y a une femme qui nous a vus. Elle est venue nous voir. Elle m'a dit bonjour. Et je me suis dit, bon, elle m'a reconnue. Donc, bon, je lui dis, bon, venez, vous voulez jouer un peu avec moi? Elle a dit, oui, oui, je vais venir, il n'y a aucun problème. Par contre, M. Panahi, ne me demandez pas de me voiler. Hein. Moi, je reste sans voile. C'est-à-dire que c'est ça la société iranienne aujourd'hui. Moi, je demande rien à personne. Genre, nommer le voile, mets le voile, ne le mets pas. C'était réaliste ce qu'on a montré. Mais bon, les endroits où il y a moins de monde, etc., on a fait attention avec une forme de mise en scène particulière pour qu'il n'y ait pas trop de monde de toute façon. Par exemple, quand on est allé dans le parking ou dans les parties un peu désertiques, tout ça, c'était fait exprès, oui.
Ce genre de femme, elle aurait pu sortir directement d'un film auquel vous avez largement participé, qui est sorti en France récemment, qui s'appelle « La femme qui en savait trop », « The Witness », pour son titre international. C'est votre ami, collaborateur Nader Saïvar qui l'a réalisé, mais vous, vous avez fait le scénario, vous avez fait le montage. Est-ce qu'il y a une école, effectivement, qui est en train de se monter autour de vous, mais aussi de jeunes cinéastes qui adoptent vos méthodes de tournage pour raconter vraiment l'Iran d'aujourd'hui?
École, non, je dirais pas. On s'entraide. Qui peut aider l'autre, aide. Alors, ce film-là, moi, je l'aide, lui, il vient m'aider pour un scénario. S'il y a un film qui est fait, j'essaye de voir, je donne mon avis sur le montage. C'est une famille, en fait. On s'entraide pour arriver à faire des films.
Merci beaucoup, Jafar Panahi. On vous souhaite un bon voyage à Hollywood pour aller défendre votre film pour les Oscars. Comment est-ce que vous appréhendez cette grande équipée hollywoodienne?
Pour l'instant, je ne suis pas. Donc... On ne peut pas le savoir. Il faut mieux rien prédire et juger.
On suivra tout ça. Merci beaucoup.
Merci.
ساعت تلخ رفتنه به خوب فهمم غای خو دو روز تلخ زندگی قصه تلخ مردنه امید یک روز زندگی دنبال خوب و گر بردنه ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نخورم برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتانا برام ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نخورم برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتانا برام آدم پوچی مثل من کجا برید که جاش بشه با چه زبانی گپ بزن تا یکی آشناش بشه موات از ایجا دور بشم جایی برم که چوکرم غیر از خیال خوب خون چیزی نه هست تو سرم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نخورم برگشت نینی سفر دنبال خوب ایتونا برام دنبال خوب ایتونا برام دنبال خوب ایتونا برام دنبال خوب ایتونا برام.
C'est Ebrahim Monsefi qui chantait ce beau Nahang qu'on entend dans le tout aussi beau et passionnant Un simple accident depuis mercredi sur vos écrans. Et c'est Assal Bagheri, merci à elle, qui traduisait les propos de Jafar Panahi. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on vous emmène à présent dans le Congo de 1961, l'année où le dirigeant indépendantiste Patrice Lumumba était assassiné sur fond de décolonisation plus ou moins acceptée par les puissances qui s'étaient partagées le continent africain. Ce qu'on sait moins, c'est qu'un an avant, une tournée triomphale du trompettiste Louis Armstrong avait servi de cheval de Troie à la CIA pour préparer ce coup d'État main dans la main avec les services secrets belges et les mercenaires du Katanga. C'est une des révélations et un des fils narratifs d'un documentaire ébouriffant, Soundtrack to a Coup d'État, signé du flamand Johan Grimont-Pré, à qui on devait notamment un tout aussi passionnant Double Take, consacré à Alfred Hitchcock. C'était en 2009. Dans ce nouveau film, dont une version plus courte a été récemment diffusée sur Arte, mais qui sort en salle, il mêle avec un sidérant sens du montage l'histoire secrète de la décolonisation africaine avec les tentatives du gouvernement américain d'utiliser le jazz contre son gré, tant il était avant tout en ces années-là une musique de lutte et de libération comme outil de soft power contre les séductions du non-alignement et du communisme dans les anciennes colonies. Un casting all-star fait vibrer ce quasi-musical, Nikita Khrouchtchev faisant le bœuf avec Fidel Castro et Malcolm X face à Eisenhower et son directeur de la CIA Alan Dulles, le tout accompagné d'un big band composé aussi bien du précité Louis Armstrong que de Dizzy Gillespie et son arrangeuse, la tromboniste Melba Liston, ou encore la chanteuse Abby Lincoln, qui avec le batteur Max Roach avait envahi le Conseil de sécurité de l'ONU en 1961 pour protester contre l'assassinat de Lumumba. C'est foisonnant, c'est assez génial, et nous avons bien sûr rencontré son auteur, Johan Grimont-Pré.
Good evening, ladies and gentlemen. I'm Mr. Armstrong.
One of America's most popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the troubled Congo on a State Department-sponsored Goodwill mission. Louis Satchmo Armstrong. whose golden trumpet has preached the gospel of New Orleans jazz on every continent, arrives in truly royal style. Louis Stalin's swinging outraged Radio Moscow, which blasted Armstrong's visit as a diversionary tactic.
Êtes-vous communiste, Monsieur Lumumba?
Et je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Je suis un Africain.
Bonjour, Johan Grimont-Pré.
Hello, bonjour.
Si je ne me trompe, vous êtes né en 1962. Un an avant votre naissance, Patrice Lumumba était assassiné. Est-ce que faire ce film, c'était aussi, d'une certaine manière, chercher à comprendre d'où vous venez en tant que Belge ?
Oh, certainly. You know,
ah oui, complètement, bien sûr.
So the way the story starts is just being born Belgian, because you cannot not look at this as being born Belgian.
On ne peut pas voir, regarder cette histoire-là sans finalement être né en Belgique.
But, yeah, being born in Belgium,
étant né en Belgique, vous avez l'histoire belge est tellement liée au Congo, en grande partie. Le deuxième roi, Léopold II, il était propriétaire d'un pays qui était 18 fois plus grand que le territoire de la Belgique, et c'était sa propriété privée. Depuis, ce privilège, ce lien avec le pays, vous savez, toutes les avenues, le palais de justice, le palais royal également, à Bruxelles, a été payé par l'argent sanguinaire venu de ce pays, l'argent du sang. Et donc, il y a un traumatisme. Et quand on parle de traumatisme, c'est à la fois le trauma des perpétrateurs de ça, et des responsables, et aussi des victimes. L'histoire du Congo, on ne l'a jamais appris à l'école. On apprenait que Léopold était un roi civilisé. Mais même l'assassinat de Lumumba, était vraiment effacé des histoires que nous apprenions. Et donc, c'est avec le livre L'assassinat de Patrice Lumumba qui a été vraiment le point de départ et qui montrait que le gouvernement belge était responsable de cet assassinat. En plus, De Witte faisait des recherches et a trouvé que le secrétaire général des Nations Unies est également complice. De Witte a été vraiment quelqu'un qui nous a conseillé beaucoup sur le film. Moi, j'ai appris tellement de choses en faisant ce film. J'étais vraiment, auparavant, c'était des gens qui étaient mes héros. Et j'ai découvert qu'il y avait une réalité que je ne connaissais pas, ce qui impliquait beaucoup de critiques. Et ça vient du bouquin de Witte.
Quand est-ce que vous avez découvert l'importance qu'avait le jazz dans cette histoire ? Parce que je crois que ce n'était pas prévu au départ. Quand est-ce que vous avez compris que ça allait complètement structurer votre film, Johan Grimont-Pré ?
En travaillant sur ce moment pivot, à la fin des années 50, ce grand mouvement d'indépendance en Afrique, je me suis rendu compte que la musique était vraiment un élément politique et quelque chose d'important dans l'histoire. Ça ne pouvait pas être qu'un détail dans le film, d'où le titre. C'est de la musique comme propagande pour envoyer des noirs musiciens de jazz en Afrique. Mais c'est aussi musique comme un allié pour la libération politique. Par exemple, quand Lumumba, il sort de prison, il est envoyé à Bruxelles pour les tables rondes. Il est accompagné par Kabasele, docteur Nico de Guitaris et des musiciens de jazz. Et Patrice Lumumba arrive en janvier 1960 et quelques jours après, l'indépendance est proclamée. Et sur le moment, au l'Hôtel Plaza, en Belgique, les compositeurs en Belgique composent Independence Cha-Cha. Tous les partis politiques du pays sont mentionnés. Puisque quelque part, avant, les Belges avaient comme idée de diviser les partis politiques dans le pays. Et Independence Cha-Cha, ça a été un grand succès à travers tout le continent. En Rhodésie, une autre ancienne colonie au sud du Congo. Le Independence Tchatcha est devenu le nom du parti de libération du pays. La première rumba dans le film, elle s'appelle Atandele. Atandele, ça veut dire « Tôt ou tard, le monde va changer. » Autrement dit, l'indépendance arrivera. Tôt ou tard. Et ça n'a pas été autorisé par les Belges. Et ça a été censuré. Et le musicien a été mis en prison. Donc là, on traverse et on voit de la musique qui est vraiment un geste politique. Un autre exemple, c'est que Abe Lincoln et Max Roach, le film montre vraiment bien le Max Roach Quartet, l'album We Insist Freedom Suite. Il s'est passé à la télévision belge. Ce concert se termine avec le cri d'Abe Lincoln. Et c'est la fin de notre film. Il commence avec Max Roach à la batterie et Abe Lincoln avec Maria Angelou, l'auteur, avec Rosa Guide. Et donc, au niveau de la 7e avenue, il y avait une librairie. C'est là, c'était vraiment le centre du nationalisme noir. Ils demandaient aux femmes de les rejoindre. Ils ont demandé vraiment de bouleverser et de changer le Conseil de sécurité. Et l'ambassadeur des États-Unis, c'est lui qui a annoncé le meurtre de Patrice Lumumba. La fin de ce film montre les Nations Unies comme dépendant et comme responsable de l'assassinat de Lumumba. Et donc c'est le moment où aux Nations Unies on annonce le meurtre de Patrice Lumumba. Et donc, toutes ces histoires se rassemblent à la fin de mon film.
On peut voir votre film Johan Grimaud-Pré aussi comme un formidable musical, une comédie musicale, dans la mesure où on a souvent le sentiment que telle ou telle musique non seulement peut caractériser un personnage, mais aussi que parfois la musique en dit plus que les mots et permet de voir autrement les images. Alors parfois la musique accompagne les images, comme avec Max Roach ou Dizzy Gillespie, parfois elle rentre en confrontation avec, je pense à ce moment où Eric Dolphy démolit complètement un discours du roi Baudouin.
Well, and even Art Blakey is
oui, et Art Blakey aussi, qui soutenait et qui soutient le contre-discours de Lumumba. Lumumba n'était pas invité en tant que leader élu. Il n'avait même pas autorisé de parler. Et donc, c'était vraiment extrêmement paternaliste de la part de la Belgique. Et ce roi qui faisait ce discours, alors avec tout ce qu'il avait fait au Congo, c'était comme vraiment un acte de déni. Et donc, on avait un premier ministre qui demandait à Patrice Lumumba de s'excuser pour son discours alors qu'il avait dit la vérité et de rectifier ce qu'il avait dit. Moi, je pense que c'est le roi qui aurait dû s'excuser auprès de Lumumba, tout ce que Léopold avait fait au Congo. Mais au lieu d'expliquer, parce que, vous savez, je n'ai pas voulu expliciter, parce que quand un documentaire commence à expliquer les choses, le cinéma n'est plus là. C'est important de mettre les images et les sons et de les faire fonctionner ensemble. Et c'est là qu'on arrive à du cinéma. Et puis, on a Eric Dolphy et on a Art Blakey qui frappe sa batterie. Et on voit Baudouin qui regarde comme si le roi, quelque part, en consternation. Et quand Lumumba dit que toutes nos ressources du pays nous ont été volées, Et nous avons perdu tout contrôle. Et les lois étaient différentes pour les Blancs et les Noirs. Et là, il y a un silence. On entend que quelques gens qui toussent. À ce moment-là, on regarde toutes les réactions, les visages qui regardent et qui réagissent, qui regardent Patrice Lumumba. Et le roi dit, mais il a eu le droit de parler. Lui, je suis surpris qu'il ait eu le droit de faire un discours.
Est-ce que le langage propre du jazz, la syncope, du contrepoint par moment, vous ont inspiré pour le montage? Parce qu'il y a une rythmique du montage qui me semble proprement jazz, Johan Grimont-Pré.
Oui, un journaliste américain a dit, c'est pas un film sur le jazz, ce film est du jazz. Mais à propos de la syncope, c'est toujours quelque part trouvé comme Monk taper la note, frapper la note qui est celle juste à côté et qui n'est pas tout à fait la bonne. Et si jamais on met ça dans le contexte politique, on utilise ces discours et ces leaders qui parlent comme mettant des mots sur la musique. Mais Ornette Coleman aussi dit « nous, Noirs ». Il a toujours voulu nous identifier à ce que nous ne sommes pas, à cause de la couleur de peau. C'est ce qu'on appelle la double conscience. L'essence que l'identité est une sorte de syncope. Et c'est très politique. Ça ouvre, quelque part d'une façon brechtienne, un monde où la réalité n'est pas la réalité. Et donc pour moi, trouver cette histoire, c'était ramener le contexte politique de cette musique, et même au-delà, parce que beaucoup, avec les droits civiques, le mouvement en Amérique, était très inspiré par cette arrivée, ce nouveau souffle de liberté et d'indépendance en Afrique. Et aussi avec la rumba. Ça venait de Cuba. Mais vous savez, tous ces gens du Congo étaient passés par là. Qui avaient inventé la conga, le cha-cha. Et ça revient par des guitaristes qui travaillaient sur des bateaux entre Kinshasa et Cuba. Donc il y a cette sorte de déplacement. Et la syncope se déplace. Elle part de cette idée de perdre sa maison, de perdre son pays, de perdre sa voix, et de donner quelque part, chanter quelque chose qui manque, et ce cri à la fin, c'est ça. Il y a eu l'assassinat de Patrice Lumumba et c'est donner une voix extrême à la situation, essayer de redéfinir ce que c'est vraiment que la réalité. Et je crois qu'il s'agit de ça finalement.
Merci beaucoup, Johan Grimont-Pré. Pas un des moindres plaisirs de ce soundtrack to a coup d'État que d'y entendre, entre autres, la fleurette africaine de Duke Ellington, accompagnée à la contrebasse par Charlie Mingus et à la batterie par Max Roach, encore lui. Le film est sorti en salle ce mercredi, ne le ratez pas. Merci à Harold Manning d'avoir traduit les généreux propos de Johan Grimont-Pré. Vous écoutez France Culture, plan large, et dans vos salles cette semaine, c'est encore une sorte de guerre coloniale qui inspire un autre film. Il s'appelle Honeymoon, c'est le premier long métrage d'une jeune cinéaste ukrainienne, Jana
Ozirnam, c'est un huis clos, excellemment mis en scène dans sa restitution d'un espace qui se rétrécit et d'un temps qui s'allonge dans cet appartement d'un immeuble de la banlieue de Kiev où un jeune couple se retrouve reclus quelques jours de février 2022 quand l'invasion russe à grande échelle du pays amène des soldats ennemis à occuper le bâtiment. Jana Ozirna y filme toute une chorégraphie silencieuse de la survie et surtout, d'autant que la jeune femme du couple est une artiste plasticienne, elle interroge ce que peut l'art en temps de guerre, en l'occurrence ici la fiction cinématographique, alors que jusqu'à présent, seules des images documentaires nous étaient arrivées d'Ukraine. Jana Ozirna.
Чера просто страшний. Сюди чера. Три години відстояв, і після мене бензин закінчився. Прикинь.
Ми тут все кинемо? Там танки, Тарас.
Je ne suis pas juste une artiste, je suis une cinéaste. Et je ne fais pas des documentaires, mais des films de fiction, ce qui est un processus très, très long et coûteux. Et parmi les différents types d'art, le cinéma est le plus coûteux et celui qui prend le plus de temps. Alors, quand il y a une menace existentielle pour votre pays, le sentiment d'inutilité est très élevé. C'est difficile de comprendre ce qu'il faut faire, comment être efficace pour votre pays en tant que professionnel. Je pense que beaucoup de gens du cinéma qui ne sont pas documentaristes ont partagé ce sentiment.
Had this yes feeling the same. So I just wanted to reflect it in the film.
Donc je voulais que ça se reflète dans le film. Parler de ça parce que c'est, je dirais,
in a very small topic.
Un très petit sujet. Alors que nous sommes entourés de différents sujets très très importants. Comme le transfert d'armes, l'occupation, les bombardements, et des petites choses comme ça, ces petits sujets, il n'y a que le cinéma qui peut se permettre de les explorer.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, justement, que en temps de guerre, on a encore plus besoin qu'on nous raconte des histoires ?
Oui, je crois au pouvoir des histoires. Mais d'un autre côté, il y a les conditions concrètes qui permettent de faire des films. Par exemple, j'ai pu tourner mon film grâce à la Biennale de Venise. Parce que mon pays n'avait pas d'argent. Puisque tout l'argent va à l'armée. Mais au même moment, par exemple, notre ennemi dépense beaucoup d'argent pour tourner des films. Même des films apparemment anti-guerre, qui sont très intelligents et bien faits. Mais qui lui servent en fait à se justifier.
Of the whole nation and the whole country. So it's for me it's not so obvious because
pour moi ce n'est pas si évident parce que raconter des histoires pourrait relier les gens, les aider à comprendre comment les Ukrainiens se sentent aujourd'hui.
But from the other side it's a very big political
de l'autre côté de la frontière, il y a un choix politique de dépenser beaucoup d'argent pour s'ouvrir les portes des grands festivals de cinéma. C'est très difficile de rivaliser en termes de storytelling quand tout l'argent de la culture va à l'armée.
Honeymoon est sorti en salle ce mercredi. Merci à Pascaline Bonnet d'avoir prêté sa voix à Jana Ozirna. Côté réédition, les amateurs et amatrices d'histoire de France et de grandes fresques ostensiblement théâtrales se rendront en salle pour voir sur grand écran les hectolitres de sang déversés par Patrice Chéreau dans La Reine Margot pour évoquer l'horreur des guerres de religion et souterrainement celle qui déchirait alors la Yougoslavie. Le film date de 1994 et est devenu depuis culte pour la robe de mariée baignée d'hémoglobine d'Isabelle Adjani. Reggiani dans le rôle titre, ou le visage tourmenté de Jean-Hugues Anglade dans Charles IX, transpirant le sang des victimes huguenotes de la Saint-Barthélemy. Celles et ceux qui ont découvert Paul Thomas Anderson avec son dernier film, l'époustouflant Une bataille après l'autre, iront avec profit découvrir toujours sur grand écran un de ses premiers films, son troisième je crois, la déviante comédie romantique Punch Drunk Love, rien que pour le costume bleu d'Adam Sandler et la robe rouge d'Emily Watson. Et puis pour rester dans notre thématique du jour, pour voir comment hier et aujourd'hui le cinéma met en scène toutes sortes de résistances, le Forum des images à Paris propose tout un cycle consacré à la question, ça s'appelle logiquement Résiste, point d'exclamation, et c'est jusqu'au 3 novembre. Ceci annoncé, il est temps de mettre un peu de couleur dans toutes ces images.
You like women? Oh, you know I like women. That's my weakness.
What kinds they got out there?
Just white. It's white that I saw.
Mm-hmm. You like red?
Red? I mean that kind of red?
Mm-hmm.
I like red. I like white. I like blue. I like all of them. Don't matter to me. I'm greedy. I like the heavy ones. I like the heavy ones, the pretty ones, soft, ones that smell good, you know.
Well, we got to keep an eye on you. You're just going to run all over the place.
Il y a deux ans, mais ça se passait dans l'Oklahoma d'il y a 100 ans, d'odieux prédateurs capitalistes blancs et rigolards convoitaient les terres pétrolifères indiennes en ourdissant des mariages avec les légitimes propriétaires. Mariage devant se terminer par la mort de l'épouse. C'était Killers of the Flower Moon, et devant la caméra de Martin Scorsese, c'était évidemment Robert De Niro qui demandait à son très demeuré neveu Leonardo DiCaprio quelle couleur de femme il aimait. Deux ans plus tard, toujours aussi hébété d'ailleurs, Leonardo DiCaprio se retrouve dans Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson à concevoir avec l'afro-trinidadienne Tiana Taylor une enfant métisse, et c'est un peu partout, avez-vous constaté Sandra Onana, que sur les grands et petits écrans américains apparaît une image différente de la famille où la couleur de ses membres n'a plus même de rôle narratif. Alors que Donald Trump bataille avec férocité contre les politiques d'inclusion dans les institutions publiques comme privées, qu'est-ce que ça dit de la façon dont l'Amérique se représente, Sandra Onana? Et puis d'ailleurs en France, qu'en est-il?
On peut partir de ce que dit ce personnage d'escroc joué par DiCaprio à son oncle dans Killers of the Flower Moon. Effectivement, j'aime les rouges, j'aime les blancs, j'aime les bleus, je les aime toutes. Thématiquement, ça annonçait peut-être le début d'une rupture dans sa carrière, en tout cas une mise à jour des portraits de conjugalité qu'on a toujours vu incarner dans la fiction. Pour s'en rendre compte, il faut obligatoirement aller voir Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson en ce moment dans les salles. Déjà parce que c'est génial, c'est un film d'action qui se demande de quelle révolution peut hériter la nouvelle génération en pleine montée du fascisme. La coïncidence, c'est qu'on trouvera dans le prologue une scène qui donne quasiment la réplique à Killers of the Flower Moon. C'est celle où Tiana Taylor embrasse DiCaprio à pleine bouche après une action de sabotage terroriste. Ce sont des antifas amoureux. Et elle lui demande « Est-ce que t'aimes ça, les Noirs ?» C'est comme voir éclater d'un coup, de manière explicite à l'écran, la question qui travaille la fiction américaine plus souterrainement ces dernières années. Les séries télé en particulier, c'est vrai. On n'a jamais vu autant de célébrités jouer les parents de foyers mixtes avec des enfants ou des beaux-enfants métis, parfois des compagnes noires. On peut citer Mark Ruffalo dans le Polar Task sur HBO en ce moment, Pedro Pascal dans la dystopie de zombies The Last of Us. Il y avait Jake Gyllenhaal dans Présumé innocent. Même chose dans The Pitt, qui est le remake officieux de la série Urgence, qui arrive toutes les récompenses. Même Jodie Foster joue la mère d'une ado autochtone en Alaska dans la dernière saison de True Detective. Donc pourquoi ça se remarque? Il n'y a rien de moins anodin, en fait, que les portraits de famille à l'écran. C'est le reflet de la vision du monde à Hollywood. C'est là qu'on regarde, si on veut sonder, la psyché du pays, ses névroses, si on veut regarder sa recherche de la perfection, du bonheur. Or, derrière les images de sainteté de ces foyers plutôt 100% WASP dans la culture populaire, ou alors 100% afro-américain, 100% latino, en tout cas, il y avait ce reflet d'un principe de séparation par défaut. Et donc, il y avait comme cette impensée du métissage, surtout dans le sillage des stars. Si vous deviez caster l'enfant de DiCaprio, le visage de l'universel qui était tenu pour neutre, c'était évidemment les petites têtes blondes. Ça se vérifie très bien dans ce moment marquant de sa filmographie, tournant des années 2010, moment où on l'a vu camper beaucoup de héros traumatisés par des épouses dépressives, hantées par les retrouvailles impossibles avec ses enfants. C'était le cas dans Inception, c'était le cas dans Shutter Island, c'était le cas dans Les Noces Rebelles. La question, c'était de quelle royauté d'Hollywood pouvait-il descendre ces petits bâtards de l'incarnation, le mot est dans le film de Paul Thomas Anderson, quelle pouvait être leur parenté. D'un coup, en 2025, il y a Paul Thomas Anderson qui donne à voir dans son film une révolution de sang-mêlé qui naît de l'union entre deux idéalistes. Et en même temps, il met le doigt sur cette phobie totale de l'impureté génétique aux origines du mythe blanc américain. Ça pouvait pas être plus politique, évidemment, en plein retour d'obsession sur la sauvegarde de l'identité blanche dans l'Amérique de Trump. Reste à voir si c'est dû au décalage temporel entre le lancement de ses productions, toutes celles qu'on a citées, les séries, etc., et l'actuel boom de fantasmes conservateurs qui pourrait conduire les studios, par opportunisme, toujours à réajuster un peu leur stratégie de représentation. Est-ce que ça fera régresser le recours à ce que les Américains appellent le colorblind casting ? Colorblind casting en français, on dirait les castings indifférents à la couleur de peau. C'est des appels à audition qui ne spécifient pas ou ne prennent pas en considération l'origine des acteurs pour distribuer les rôles. Et c'est le genre d'évolution qui tarde apparemment à s'implanter en France. C'est ce que nous dit en tout cas l'enquête publiée le 12 septembre par deux chercheurs, Maxime Servul et Sarah Lécosset, financée par le ministère de la Culture. Ça s'appelle « La couleur des rôles », enquête sur la division raciale du travail actorial. C'est aux éditions Le Bord de l'eau. Et c'est aussi le prolongement d'un rapport qui avait été remis en 2024 sur les discriminations dans le cinéma, l'audiovisuel, le théâtre en France. C'est fondé sur une centaine d'entretiens de comédiens. Il faut savoir que les arts de la représentation, on ne sait pas forcément, c'est les seuls secteurs à jouir d'une dérogation légale concernant le fait de trier les personnes en fonction de leur apparence physique à juste titre. C'est le principe du casting. Alors l'étude s'interroge, comment on fait pour agir sur les obstacles qui pénalisent les minorités ? Dans l'étude, on voit que ça, c'est l'état des lieux qui rapporte une palette de rôles limitée pour les acteurs perçus comme non-blancs, des barrières à l'entrée des castings, ça fait état de l'assignation aux rôles toujours stéréotypés, une surréprésentation des rôles de subalternes, et ça propose du coup des leviers de formation pour résorber ces situations, des dispositifs un peu semblables à ce qu'on a vu apparaître sur les plateaux pour endiguer les pratiques sexistes. On ne peut se satisfaire de l'impression que ces changements seraient en cours. C'est une des leçons finales de l'enquête. C'est aussi celle tacite du film de Paul Thomas Anderson, finalement, puisque dans tous les cas, c'est pas seulement d'une révolte de représentation dont il s'agit, c'est bien d'une révolution. When you need a bit of love, 'cause your man is out of town, that's the time you get me running. You know I'll be around. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. Upon the door, you have sent the maid home early, like a thousand times before. Like the castle in its corner, in a medieval game, I foresee terrible trouble, and I stay here just the same. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah, I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah.
Merci Sandra Onana. Pour en savoir plus, côté français, La couleur des rôles, enquête sur la division raciale du travail actorial de Maxime Servul et Sarah Lécosset. C'est donc aux éditions Le Bord de l'eau. Quant à ce qu'on écoute, le Dirty Work de Steely Dan, c'est dans la superbe BO d'une bataille après l'autre qu'on le trouve. Un plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Fabien Gosset, Martin Troadec, Paul Guigue et Timothée Hubert. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.
Your dirty work, oh yeah. your dirty work no more.